Bonjour, bienvenue dans votre émission Histoire et Mémoire sur Radio Grand Ciel. Alors aujourd'hui, nous sommes de nouveau avec Laurent Coulon, le directeur de la direction de l'archéologie de Chartres Métropole et de la ville de Chartres. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors nous poursuivons notre déambulation au sein de l'exposition au Moyen-Âge qui se tient au Musée des Beaux-Arts et ceci jusque début mars 2020. C'est une exposition réalisée avec de nombreux partenaires et on les en remercie. Donc, nous avions vu la première fois la vie dans la ville, mais comme le dit Laurent le disait, la vie à la campagne est tout aussi importante à cette époque. Et donc, on va pénétrer dans cette seconde partie d'émission et en savoir davantage. Alors, Laurent, quels sont les sites fouillés qui vous ont permis d'avoir cette vue un peu globale sur la vie à la campagne à cette époque ?
Dans l'exposition, deux sites emblématiques sont particulièrement bien représentés. Il s'agit du site du Radret sur la commune de Gelainville, site qui était fouillé par la direction de l'archéologie, et le site d'Allonne, un site qui correspond au contournement d'Allonne, site qui était fouillé par l'Institut national de recherche archéologie préventive et qui a là aussi révélé énormément de choses. Alors le site de Gelainville, c'est un établissement rural du Haut Moyen-Âge qui est installé à l'emplacement d'un site antique dont il reprend en partie la structuration de l'espace. Il était accompagné, ce site, d'une petite nécropole qui a livré un mobilier abondant et assez intéressant. Et puis le site d'Allonne, ça a été principalement de l'habitat, là aussi, de l'habitat groupé, et une vaste nécropole qui s'étend sur le Haut Moyen-Âge et qui a livré énormément d'informations et de mobilier.
Donc là, on pourra découvrir justement tous ces objets qui étaient rattachés à ces sépultures, mais revenons à la vie des vivants, cette vie à la campagne. Laurent, comment étaient structurées du coup les fermes à cette époque ? Qui détenait quoi ? Est-ce qu'on avait des grandes exploitations ou au contraire plutôt des petites structures ? Comment voilà ?
On avait à la fois des grands domaines, possession de l'aristocratie ou des établissements religieux. On sait, c'est un peu plus tardif, mais à l'époque carolingienne, on sait que les établissements religieux avaient des domaines assez conséquents. Mais il y a aussi des unités d'exploitation plus modestes, individuelles, familiales, je dirais. Et puis, on a au sein des campagnes la multiplication d'habitats groupés qui donneront naissance progressivement, probablement, pour certains, à nos villages.
Et comment communiquer villes et campagnes justement entre elles, puisque ces fermes devaient produire donc du coup l'alimentation ou les bases alimentaires. Du coup, est-ce qu'on sait s'il y avait des foires ou des marchés ? Comment ça se passait ?
Il y avait des circuits commerciaux. Effectivement, les campagnes ravitaillent les villes également. Mais par rapport à la période antique, on a des amplitudes dans l'élément commercial qui sont beaucoup plus faibles. Le grand commerce tel qu'on pouvait le connaître à la période antique va progressivement disparaître. Le grand commerce d'importation, par exemple, de matières premières méditerranéennes, comme l'huile d'olive, par exemple, ou le vin, vont disparaître. Et on va d'ailleurs voir au cours du Haut Moyen-Âge, et c'est un phénomène qui va s'achever à la période carolingienne, qui arrivera à son terme à la période carolingienne, un basculement de la structure économique qui est centrée plutôt sur le nord de l'Europe. D'accord. Et non plus sur la Méditerranée.
Là, on découvre ici un petit peu aussi donc, les pratiques agraires, les animaux qui étaient élevés ou chassés. Qu'est-ce qu'on retrouvait dans l'assiette de nos ancêtres mérovingiens ?
Des bouillies de céréales, enfin tous les éléments qu'on retrouve, qu'on avait déjà à la période antique. Il va y avoir une part liée à l'élevage, hein, la chasse, mais la chasse est un petit peu, on va pas dire anecdotique, mais c'est pas l'élément principal. Ce qui va disparaître, par contre, c'est les produits d'importation qu'on faisait venir de la Méditerranée.
Alors là, si on lit les panneaux, on se plonge dans cette époque et dans cette agriculture locale. Alors, vous disiez les céréales, l'avoine et le seigle. On parlait une autre fois des boissons qui étaient consommées à cette époque. Vous disiez que l'eau était malheureusement contaminée et donc les plus chanceux buvaient de la bière. Est-ce que c'était du coup avec des produits locaux? Quelle était cette production?
C'est probablement des productions locales à base de céréales cultivées localement pour les boissons du type bière, mais il y avait d'autres types de boissons. Et puis on voit aussi le développement de la vigne dans nos territoires. Ça a probablement déjà commencé à la période antique, et là on va voir un essor de la vigne, d'autant plus que l'Église va en faire un usage important au sein des communautés religieuses, mais également pour tout le monde. C'est le vin est de plus en plus répandu.
Et justement, ces hommes-là qui cultivent ces terres, on n'est plus du tout dans le même système romain avec des maîtres et des esclaves. Là, on est dans quelle configuration, Laurent ?
Alors là encore, c'est extrêmement compliqué de présenter une société qui est très complexe, très, très, très variée. Ce que je peux dire globalement, c'est que progressivement, l'esclavage disparaît. Voilà. Les sociétés germaniques sont des sociétés d'hommes libres. Le paysan était à la fois paysan et guerrier.
D'où les armes que l'on voit ici exposées dans la partie.
D'où effectivement, la grande quantité d'armes dont nous disposons maintenant. Voilà. Et puis, il faut imaginer que nous avons deux sociétés différentes qui vont s'amalgamer progressivement. Une société d'origine germanique avec ses propres lois, et une société issue de l'Antiquité, issue du fond gallo-romain, qui continue à utiliser une partie du droit romain. Donc on va avoir des lois qui vont apparaître, qui vont faire qui vont organiser la cohabitation entre deux cultures différentes.
Par contre, là, on voit au niveau je passe un peu du coq à l'âne, mais plutôt d'un pot à un autre, parce qu'on voit au niveau du vaisselier, là, pareil, il y avait beaucoup d'importations, il y avait une culture romaine aussi au niveau de la poterie, et là, on arrive sur des céramiques totalement différentes. Laurent, est-ce que vous pouvez nous les décrire ?
Une des formes les plus caractéristiques pour cette période, ce sont les céramiques biconiques. Donc, il faut imaginer deux V mis bout à bout. Après, il s'agit principalement de production locale dont on commence à pouvoir faire les distinctions, et notamment par l'intermédiaire d'une fouille qui vient d'être réalisée par la direction de l'archéologie à Minières, au clos de Louche, où on a apparemment des fours de potiers qui ont livré un abondant mobilier qui nous permet de mettre en place les typologies et surtout les chronotypologies.
D'accord. Oui, parce que là, on y voit des gobelets, des cruches, des fragments d'assiettes, des vases, des écuelles, des petites urnes, donc vraiment un vaisselier complet qu'on peut admirer. Donc on voit ce vaisselier et du coup, qui dit vaisselle dit potier, dit artisanat. Laurent, à cette époque, quels sont les autres métiers d'artisanat, savoir-faire remarquables que l'on peut découvrir dans l'exposition ?
Alors l'élément le plus important, évidemment on a différents types d'artisanat représentés, mais l'élément principal, c'est l'art du métal.
C'est vraiment caractéristique de cette période ?
C'est-à-dire, à cette période, ils arrivent à des degrés de maîtrise qui sont assez exceptionnels, avec des arts qui sont très particuliers. On a évoqué les plaques-boucles.
Oui.
Donc, on a des exemples de plaques-boucles damasquinées, donc avec des motifs.
On va s'approcher de la vitrine, justement, pour observer ces éléments de parure ou objets, et pour en savoir un petit peu plus justement sur qu'est-ce que la damasquinure que vous évoquez, Laurent.
La damasquinure, ici, c'est une technique qui consiste à appliquer un décor géométrique stylisé en métal, en général en métal précieux, sur une plaque, là en l'occurrence une plaque boucle, donc la plaque principale de la ceinture.
Effectivement, on a vraiment l'impression sur l'objet de voir des fils qui s'entrelacent sur la surface avec de très très beaux motifs et décors. Donc là, par exemple, Laurent, cet objet, où a-t-il été découvert ?
La grosse plaque boucle a été découverte à Allonne. Et on a d'autres éléments, d'autres boucles, plaques boucles, mais qui sont par leur dimension un peu plus modeste, qui elles ont été découvertes à Chartres, rue des Comtesses, et là on a une damasquinure qui est bichrome.
Et effectivement, si on regarde de plus près, cette damasquinure est faite de fils d'argent et de laiton, donc deux couleurs différentes. Donc ça, ce sont parmi des objets magnifiques, mais il y a des objets aussi très très ciselés, très très fins qu'on peut découvrir dans l'exposition.
Donc là, ce sont des objets qui proviennent de la nécropole de Saint-Chéron, de la rue des Comtesses à Chartres, de la rue des Filles-Dieu. Donc on a des éléments de parure, et notamment une rouelle qu'on parfois on peut appeler plaque de châtelaine.
Alors c'est cette rouelle d'ailleurs qui fait l'objet de l'affiche de l'exposition, car c'est un objet très joli et très travaillé. À quoi pouvait servir cette rouelle de châtelaine ?
C'est un élément de décor, de parure, qui est suspendu. En général, c'était porté près de la taille, suspendu par des lanières ou une chaînette métallique.
Donc des très beaux objets, donc des bijoux que l'on peut admirer, ces plaques-boucles comme Laurent le disait, mais il y a d'autres arts qui sont représentés, notamment le travail de l'os, le tissage, et on peut aussi voir comment les fibres étaient teintées. Donc vraiment toute une richesse autour de l'artisanat qu'on peut découvrir dans l'exposition. Et là, il faut vraiment prendre le temps de regarder dessins et vitrines, car vous avez la chance aussi d'avoir une exposition très illustrée pour représenter toutes ces techniques qui étaient observées et appliquées à l'époque. L'exposition donc s'achève bientôt, toute dernière partie avant de quitter les lieux. Et je vais reprendre tout simplement la question marquée en gros sur le panneau. Laurent, après la période mérovingienne et après, quid de Chartres, comment évolue-t-elle ?
Alors, la période de mérovingienne va progressivement évoluer. On a tous entendu parler des maires du palais. C'est-à-dire que c'est une autre dynastie qui va progressivement prendre le pouvoir. ce sont les Pipinides, ce sont les ancêtres des Carolingiens, puis ensuite évidemment on va avoir les Carolingiens. Donc l'État va être plus centralisé, plus important également, plus puissant. Il y a la naissance d'un empire avec Charlemagne. Et puis on va avoir, ce qui se passe à Chartres reste, je ne vais pas dire mystérieux, mais on est comme à la période mérovingienne, on a très très peu d'informations. Et on commence à avoir plus d'informations sur Chartres à partir du Xe siècle. On sait qu'au IXe siècle, la ville a dû faire face aux attaques normandes, enfin des hommes du Nord, hein, des Vikings. La ville a été prise, une partie du clergé massacrée, mais on a que quelques informations à ce sujet. Et c'est à partir du Xe siècle que la ville va commencer à... On commence à avoir beaucoup plus d'informations, notamment par les textes, hein, et qu'on voit la ville qui commence à se transformer. C'est-à-dire qu'on va commencer à voir... finalement, l'habitat va sortir des remparts et la ville va à nouveau se développer. On va avoir... au début du XIe siècle, grâce à l'évêque Fulbert, la construction d'une énorme cathédrale. Et puis, à partir du XIIe siècle, de la fin du XIIe siècle, on va avoir la reconstruction de la cathédrale telle qu'on la connaît là actuellement, suite à l'incendie de la cathédrale de Fulbert. Mais on a aussi, la ville va prendre des dimensions et un aspect qu'elle va garder jusqu'au XIXe siècle.
Donc une période aussi charnière et importante, hein, ce 10e, 11e siècle pour la configuration de la ville. Merci Laurent pour cette deuxième émission consacrée à l'exposition au Moyen-Âge par la direction de l'archéologie qui se trouve présentée au Musée des Beaux-Arts. Je le rappelle donc jusqu'au début mars 2021. Si vous voulez refaire avec nous, réécouter ces visites, n'hésitez pas à vous connecter sur le site Radio Grand Ciel, rubrique de l'émission Histoire et Mémoire. Et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission.